Vous écoutez
RMC. RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Quentin Vinet.
Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur RMC, c'est vendredi, dernier jour de la semaine. Généralement, on est content le vendredi, il y a le week-end qui arrive. Toute l'équipe est là ce matin. Salut Anaïs.
Salut et salut à tous. Oui, on est ravis, évidemment.
Bonjour Géraldine, ça va?
Salut tout le monde. Ouais, mais moi j'ai du boulot aujourd'hui pour un vendredi.
Ah ouais?
Ah ouais.
Et pourquoi?
C'est un temps très agité aujourd'hui sur la France. Beaucoup de vent notamment, on va en reparler tout à l'heure.
Ah bah super, déjà une bonne nouvelle quoi. Géraldine, elle arrive à plomb l'ambiance. Bah, il fera pas beau ce week-end, vous allez rester à la maison. Super, merci
mais
Géraldine.
Mais surtout, attends, elle dit que d'habitude elle bosse pas.
Non.
Super, bravo. Il y a Sébastien qui a la réalisation, il y a Quentin et Alexandre au standard, on n'oublie pas Arthur aussi. Il y a tout le monde sauf Charles ce matin. Et ouais, Charles n'est pas là. Alors je vous rassure, tout va bien, ça n'a rien à voir avec l'élimination du Paris Saint-Germain. Charles okay. est en pleine forme, il fait grasse matinée ce matin. Charles sera de retour lundi matin. On va se réveiller tous ensemble jusqu'à 6h30 sur RMC avec ce matin un sujet qui nous intéresse particulièrement. Bon, on a l'habitude, faut le dire. C'est la tournure qui est en train de prendre la mobilisation contre la réforme des retraites.
Oui, la semaine se termine et la France n'est pas à l'arrêt. C'était pourtant ce que voulaient la CGT et les syndicats contestataires. Mettre l'économie à genoux après la mobilisation du 7 mars qui a rassemblé énormément de monde dans la rue. L'idée, c'était de frapper les secteurs clés pour faire plier le gouvernement. Mais même dans les secteurs très mobilisés, on lève le pied à la RATP. La grève est mise sur pause et une des raffineries en grève a repris le boulot.
Alors, le mouvement social est-il en train, eh bien, de s'essouffler, cette mobilisation contre la réforme des retraites? Est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce que, au contraire, vous le regrettez? Est-ce que c'est un aveu d'échec pour l'intersyndicale, pour tous les opposants à ce texte? Est-ce qu'il est encore possible, tiens, de faire grève pendant des semaines, comme ça a pu être le cas par le passé? Là, je pense à 2019-2020. Sauf que là, bon, il y a l'inflation. Si vous êtes gréviste, tiens, venez nous le dire. Comment est-ce que vous vous mobilisez? Est-ce que vous êtes en action depuis mardi? Est-ce que vous privilégiez plutôt les actions coup de poing? Venez nous le dire ce matin sur l'application Direct Studio ou alors en composant le 32-16. Bon, comme tous les matins, Anaïs, il y a plein de rendez-vous.
Il y a notamment mon choix à 5h10. Ce matin, je vais vous parler de ces Français qui ont déjà embelli leur CV pour pouvoir décrocher un job. Pratique assez courante selon une étude qui vient d'être dévoilée. Je vais tout vous expliquer. On retrouvera aussi Mélinda Davance-Toulas pour C'est déjà demain, Manu Le Chypre pour l'économie et puis Antoine Martin viendra nous parler de Corinne Diacre, démise de ses fonctions par la Fédération Française de Foot. Elle n'est plus sélectionneuse des Bleus. On va y revenir dans la Story Sport à 6h20 sur RMC et RMC Story.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Quentin Vinet.
Et à 4h42, bon réveil à tous. Le mouvement contre la réforme des retraites est-il en train de s'essouffler?
C'est la question du jour sur RMC.
Ben voilà le constat, on le fait tous ensemble ce matin. La semaine se termine, la France n'est pas à l'arrêt. C'était pourtant ce que voulaient la CGT et les syndicats contestataires. Mettre l'économie à genoux, vous vous souvenez, c'est ce qu'ils avaient dit, c'est ce qu'ils voulaient après la mobilisation du 7 mars qui a rassemblé, rappelons-le, énormément de monde dans la rue.
L'idée, c'était de frapper les secteurs clés pour faire plier le gouvernement. Mais même chez les éboueurs, chez les cheminots ou chez les raffineurs, on voit bien que les grévistes sont en train de lever le pied, Vincent Chevalier.
Dans des secteurs pourtant d'habitude fortement mobilisés, grève en pause à la RATP, fin des blocages dans des raffineries, moins de grévistes chez les éboueurs parisiens. Difficile alors de lancer des mouvements dans d'autres secteurs. Dans la fonction publique, la mobilisation se heurte au pouvoir d'achat. Dans l'éducation, certains veulent durcir le mouvement, mais adoucissent le discours pour préserver l'union intersyndicale, elle qui a, pour l'instant, privilégié les grèves perlées. Et c'est peut-être une erreur, selon Sylvain Boulouk, historien spécialiste des mouvements sociaux.
L'autre solution aurait peut-être été dès le départ, lancer un mouvement qui soit plutôt plus massif, plutôt que quelque chose de perlé, qui semble ne pas aboutir, d'autant plus qu'en face, le gouvernement et le chef de l'État se montrent relativement inflexibles.
Les organisations espèrent trouver un second souffle à l'occasion des deux prochaines mobilisations, demain et mercredi prochain.
Alors, il y a aussi l'aspect financier, il faut l'évoquer, par exemple à la RATP, où les syndicats font une pause dans le mouvement jusqu'à mercredi, alors que les grévistes s'étaient lancés dans un mouvement reconductible depuis mardi. Le secrétaire fédéral de FO Transport à la RATP, Jean-Christophe Delprat, explique très clairement que financièrement, ça ne peut pas suivre.
L'aspect financier rentre en ligne de compte, comme tous les salariés français, Les salariés de la RATP, je crois, en sont à leur 7e jour sans rémunération. Ça commence à peser sur le portefeuille. On est en période d'inflation. La moitié des salariés, je pense aux collègues de bus, ont fait grève du mois de septembre jusqu'au mois de décembre dernier. Ça a quand même laissé des traces qui étaient extrêmement importantes. Et là, on voit bien que c'est par les manifestations, par l'unité syndicale, par l'unité des Français, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, on gagnera.
Voilà le constat à la RATP, un constat financier. Donc pour se faire entendre, eh bien Anaïs, les opposants optent pour une nouvelle stratégie très visible, on va dire ça comme ça, en multipliant les actions coup de poing.
Hier à Marseille, des centaines d'enseignants ont envahi les voies de la gare Saint-Charles, bloquant le trafic des trains et entraînant des retards en début d'après-midi. Nous entrons dans le dur du mouvement, les blocages sont nécessaires, disait un enseignant sur place. En région parisienne, des agents du gaz et de l'électricité ont coupé le courant du chantier du village olympique à Saint-Denis et ont de le faire au Stade de France. Et c'est comme ça depuis le début de la semaine, avec des coupures ciblées comme à Annonay, dans le fief du ministre du Travail, Olivier Dussopt, dans des zones commerciales, des préfectures ou encore hier, près de Perpignan, le blocage du Boulot qui permet d'aller vers l'Espagne sur l'autoroute A9.
Le blocage du péage du Boulot, effectivement. Alors le mouvement est-il en train de s'essouffler? Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce qu'il faut multiplier les actions coup de poing comme l'a fait plusieurs fois à Saint-Charles, au Stade de France, au village olympique, au péage du Boulot, près de Perpignan, comme l'a fait la CGT? Est-ce que c'est ça finalement maintenant la mobilisation contre la réforme des retraites? Il y a Jonathan qui a composé le 32-16 ce matin. Bonjour Jonathan.
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour
Jonathan, vous nous appelez depuis l'Hérault, c'est ça? Vous êtes tous exactement dans l'Hérault?
C'est ça. Moi je suis vers Montpellier.
Vers Montpellier. D'abord, première question, quel est le temps ce matin à Montpellier? Je sais que c'est vigilance orange chez vous, il y a du vent, vous confirmez?
Il a plu toute la nuit, ils annoncent beaucoup de vent toute la journée.
Ok, bon, eh bien prudent si vous prenez la route, Jonathan. Jonathan, vous êtes mobilisé contre la réforme des retraites ou pas, vous?
Moi, je suis mobilisé, j'ai participé à une manifestation. Ouais. Après, au-delà de ça, c'est compliqué de se mobiliser un peu plus parce que la réforme passe dans un contexte où les Français ont la corde au cou.
L'inflation.
Plus personne a d'argent, donc ils savent très bien que les gens vont pouvoir peut-être manifester une fois, deux fois, mais après cela va être compliqué.
Donc vous, financièrement, vous n'avez pas eu les moyens de faire grève, c'est ce que vous nous dites?
C'est de plus en plus compliqué, surtout que moi je suis chef d'entreprise, ouais. Une nouvelle entreprise donc assez récente, donc ça fait 2 ans. Entre les charges et les charges et les charges et les charges, c'est très compliqué. Moi je fais grève, il y a rien qui rentre du tout, il y a aucune caisse commune, il y a vraiment rien du tout, quoi.
C'est intéressant ce que vous nous dites, parce qu'il y a Philippe Martinez, le leader de la CGT, qui sera d'ailleurs l'invité d'Apolline tout à l'heure à 8h30 sur RMC. Il vous appelait récemment, vous, les petits patrons, il vous appelait récemment à vous mobiliser également et pas à laisser faire les cheminots, les éboueurs, les raffineurs. Vous, clairement, vous lui dites, ouais, moi je suis petit patron, mais c'est pas possible, c'est ça, Jonathan?
C'est ça. Nous, on fait grève, on perd nos clients. Mmh.
Vous avez été confronté à ça, vous, au début du mouvement, c'est ça? Enfin, comment ça s'est passé pour vous, concrètement?
Le problème, c'est que admettons un jour de mobilisation, on a des clients qui nous appellent pour les servir. Moi, je suis dans les travaux publics. Si on les refuse, ils vont voir ailleurs. Clairement, on n'a plus les moyens de refuser des chantiers, quoi.
Et est-ce que le mouvement, qu'est-ce que vous pensez, vous, des actions coup de poing que mène la CGT, que mènent les syndicats contestataires là depuis quelques jours, particulièrement depuis le début de la semaine? On l'a vu encore hier à la gare Saint-Charles à Marseille, en région parisienne, pas loin de chez vous d'ailleurs, près de Perpignan. Qu'est-ce que vous pensez de ces actions coup de poing?
J'en pense pas de mal. Après, il faudrait peut-être favoriser les opérations qui soient en faveur des Français et au niveau de leur portefeuille. Les opérations au niveau des péages, ça aide les Français, ça pénalise les bonnes personnes. C'est ce genre d'opérations, je pense, qu'il faudrait favoriser.
Ouais, vous dites au péage, lever les barrières, parce que hier, c'est pas ce qui s'est passé au péage du Boulot, là, au sud de Perpignan. Ils ont bloqué le péage, ils ont bloqué l'accès à la frontière avec l'Espagne, et finalement, les automobilistes étaient obligés de contourner ce péage et de faire plus de kilomètres. Alors que, effectivement, on aurait pu les barrières.
Ça pénalise plus qu'autre chose.
Vous, finalement, c'est comme ça. Vous dites, la mobilisation, à la limite, ça peut être ça maintenant.
Voilà. Je pense que rien que lever les barrières sur le réseau autoroutier, ça va rendre service à un bon nombre de gens. Surtout au niveau du portefeuille, quand on voit les augmentations des péages, ça reste quand même un truc de dingue.
Vous qui êtes contre cette réforme de la retraite, vous y croyez encore? Vous pensez encore que le gouvernement peut céder ou pas?
Ouf, c'est compliqué. Dès le départ, il avait dit qu'il ne céderait pas, donc compliqué. Je pense que c'est compliqué, mais je pense qu'en mai 68, ça risque d'être compliqué en mars 2023. Quoi.
Et demain, vous irez manifester, Jonathan, avant de vous libérer ce matin. Demain, vous irez manifester contre la réforme des retraites. J'imagine qu'il y a un cortège qui partira à Montpellier. Ça tombe un samedi. Cette fois, est-ce que vous serez dans la rue?
Si j'ai terminé mon travail, tout tourne autour de ça, quoi. C'est ça le problème. Et comme je disais aussi à Quentin, quand vous avez parlé du sujet ZFE, moi, à partir de fin d'année, ZFE, je ne pourrais plus entrer dans la ville de Montpellier. Donc, j'essaie d'avoir le maximum de boulot là parce que je sais que ça va être très compliqué dans les mois à venir.
Faire rentrer les sous, on a bien compris. Jonathan, merci beaucoup d'avoir composé le 32-16 ce matin. Jonathan, depuis
Bonne journée, bon Bédarieux,
depuis les Rebeux.
Bonne journée à vous aussi.
Bonne journée, bon week-end, effectivement. Prudence sur la route avec la météo, effectivement, ce matin dans le sud de la France. Vous pouvez faire comme Jonathan. On continue de débattre sur ce sujet des retraites et cette mobilisation qui semble s'essouffler. Est-ce que vous êtes soulagé? Au contraire, est-ce que vous êtes résigné? Vous venez nous le dire ce matin au 32-16. 4h50 à suivre. La voix du jour. La voix du jour qui arrive dans un instant. Il y a des beaux cadeaux et puis il y aura aussi ton choix, Anaïs.
Je vais vous parler des petits mensonges que certains sont prêts à écrire sur leur CV pour pouvoir décrocher un job. Peut-être que Quentin aura d'ailleurs des confessions à nous faire, on verra.
Peut-être, on verra ça.
Rendez-vous 5h10 sur RMC.
Tout à l'heure, mais tout de suite, il y a la bande, il y a Arthur, il y a Quentin et Géraldine qui vont s'installer dans ce studio. On va parler d'une opération qui a mal tourné. Vous allez voir ça.
RMC, les histoires de Charles Matin.
Oui, les histoires comme ça pour se réveiller de bon matin sur RMC dans Charles Matin. Il y a toute la bande qui s'installe, il y a Arthur, il y a Quentin, il y a Anaïs toujours, et il y a Géraldine. Tiens Géraldine, on va commencer par toi. Tu nous emmènes en Australie ce matin où, alors j'ai du mal à y croire, mais les chats doivent respecter un couvre-feu.
Moi, je dois être un chat.
Et oui, et dans certains états, c'est même carrément un confinement. Si vous voulez que votre chat mette le nez dehors, c'est tenu en laisse uniquement. Sinon, direction la fourrière avec une amende salée. Il y a d'autres états qui les interdisent dehors à certaines heures ou qui limitent le nombre de félins par foyer. Mais alors, pourquoi donc l'Australie en veut tellement aux chats?
Tu pues le chat, tu pues le chat.
Eh bien parce que notre gentil minou, non il pue pas forcément, mais en réalité c'est un furieux tueur en série. 340 millions d'animaux qui seraient tués tous les ans par des chats domestiques. En Australie c'est quand même 27 races qui sont en voie de disparition, comme le bandicoot à pied de cochon.
Mais c'est quoi ça?
Vous le connaissez pas, c'est normal, il est en train de disparaître à cause du chat. Je pense que c'est un gros rat quoi.
D'accord.
Donc, c'est un espèce de gros rat.
Bon.
Enfin en tout cas les dégâts sont colossaux, les propriétaires s'en rendent pas forcément compte parce qu'en réalité le chat ne rapporte que 20% de ceux qu'il tue.
Mais comment tu fais pour tenir ton chat à la maison? Enfin, par nature, le chat, il fait ce qu'il veut. Hein.
Ouais, non, mais après, tu n'ouvres pas la porte,
voilà,
la fenêtre.
Pour faire attention. Okay. Tu mets des protections aux fenêtres,
c'est comme
pour
appart,
pas qu'ils sortent.
Tu fais ça, toi, chez toi, avec tes chats, Géraldine?
Non, moi, ils sortent, hein. Mais ils tuent pas, ils sont gentils.
De toute façon, on n'en est pas là. A priori, pas de confinement, hein. Tu nous confirmes, pas de confinement en France pour les chats en perspective. Quentin, toi, tu nous parles ce matin d'un Anglais. Alors lui, c'est le champion du jour, qui a réussi à réduire le prix d'une amende grâce à l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment.
Oui, il s'appelle Sean Bosley. Il y a quelques temps, il s'est garé au mauvais endroit, ce qui lui a valu une amende de 112 euros. Pour ne pas régler la note, il a eu la bonne idée de demander à l'intelligence artificielle du site ChatGPT de lui écrire une lettre de contestation, et il a reçu une réponse tellement efficace qu'il n'a pas modifié un mot. Alors l'avocat virtuel a plutôt bien fait son job, donc il écrit des belles phrases, hein. Je comprends qu'il est de ma responsabilité en tant que conducteur de connaître les règles. Je n'ai jamais reçu le premier avis de sanction, par conséquent je n'ai pas eu la possibilité de contester. Le processus de recouvrement de créance a été prématuré. Donc c'est bien écrit, tout ça à la première personne, message prêt à être envoyé. Et grâce à ça l'amende est passée de 112 à 16 euros et ça lui a pris moins de 5 minutes.
Donc tout ça c'est l'intelligence, c'est ChatGPT là qui a écrit le mail à sa place.
Ouais, il a demandé directement à l'ordinateur de lui écrire une lettre de contestation en donnant quelques infos et tout a été écrit directement. Alors, c'est plutôt
pas...
joli. Hein.
Ouais, c'est pas la première fois qu'on en parle, hein, sur RMC, mais moi,
c'est incroyable.
À la fois fascinant, c'est impressionnant.
C'est flippant.
Il écrit le mail à ta place, mais c'est flippant.
Il faut savoir s'en servir. Oui, c'est clair. Les avocats, d'ailleurs, commencent à avoir des problèmes. Il y a quelqu'un qui a été défendu grâce à l'intelligence artificielle, je sais plus, aux États-Unis, j'imagine. Ça avance, hein.
Ouais, ça règle pas mal de problèmes, ceci. Donc, l'amende, comme ça, qui est passée de 112
à 16 euros.
À 16 euros,
ceci
voilà.
Ceci dit, c'est pas une raison pour faire n'importe quoi sur la route non plus, hein. On va le rappeler quand
oui,
même.
Oui, évidemment. Sûr, mais quand même, si vous prenez une prune de stationnement, parce que là, cet automobiliste, je crois qu'il était resté dans la mauvaise zone pendant un moment.
Ouais, c'est
à l'aéroport.
Ça trop longtemps, ouais.
Voilà. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Il a pris son amende, il a oublié de payer. C'était plus de 100 euros. Finalement, il l'a réduit à 16 euros.
Oui, non, c'est
il a bien fait
efficace,
ça a marché, il a raison. Arthur, ce matin, toi, tu nous parles. Alors, Là, on va s'accrocher, on va éviter de rigoler. Tu nous parles d'une opération chirurgicale qui a mal tourné.
Oui, la victime, c'est un habitant de la région de Murcie, en Espagne. Monsieur souhaitait corriger la forme de sa verge. Elle était apparemment trop courbée à son goût. Alors, on n'a pas tous les détails, mais ça ne s'est pas déroulé comme prévu au bloc opératoire. Et à son réveil, l'homme a eu une mauvaise surprise. Les chirurgiens ont été contraints de raccourcir son engin de 6 cm.
Oh, mais c'est horrible.
Oh, mais... Ouais, bah, bon, il a toujours un pénis, hein, mais bon,
on est merci. Ça dépend de base.
Mais bon, c'est pas cool. C'est pas cool. Et en plus, il explique que maintenant, bah, il a des gros problèmes d'érection.
En plus, c'est quoi un micro-pénis par rapport à un petit pénis? À quel moment on dit c'est un micro-pénis? Je comprends pas ce type.
Non, mais c'est pas la taille qui compte.
Pourquoi tu dis ça?
Bref, gros coup dur. Il réclame maintenant un peu plus de 60 000 euros pour compenser tout ça. Un gros paquet d'oseille pour la perte d'un gros paquet tout court.
Ok, toi, tu peux
faire bah
tous
ouais.
les jeux de mots.
C'est dur. Non, mais attends, je comprends.
Oui,
c'est pas grand chose en ce qu'il demande.
Ah bah non, c'est pas grand chose, ouais, je suis d'accord, ouais.
10 000 par centimètre.
Ouais, c'est ça.
Ah ouais. C'est le barème.
On a le mathématicien là, ce matin. Il a déjà sorti le double décimal.
Ouais, c'est ça.
L'hôpital a réagi ou pas, d'ailleurs?
Non, pas encore.
On n'a pas de réaction de l'hôpital.
On n'a pas de réaction de l'hôpital pour l'instant.
Ouais, je crois que Quentin, le sujet t'intéresse énormément.
Connaissant Charles Manière, je pense que ça va l'intéresser également. Je pense que c'est un dossier sur lequel
on va suivre ça.
On peut s'engager là-dessus ce matin sur.
En tout cas, on peut avoir confiance en Arthur.
Pour faire quoi?
Pour suivre ce genre de dossier.
Oui, bien sûr. Toujours au taquet, Arthur.
Arthur, s'il te plaît, on compte sur toi. Sur RMC. Et puis Anaïs, l'événement du week-end, ça va se passer aux États-Unis, c'est la cérémonie des Oscars, la 95e édition, avec un changement notable cette année. Il va falloir que tu nous expliques pourquoi il n'y aura pas de tapis rouge pour l'occasion.
Ouais, cette année, le tapis rouge sera blanc cassé. Une première depuis 1961. Pas d'explication officielle à vous donner. Désolé, mais ce sera très surprenant à regarder. Autre changement, une équipe de crise a été créée pour la cérémonie. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé l'an dernier? Will Smith avait donné une gifle au présentateur Chris Rock.
Ça a fait
qui
scandale.
Avait fait une blague sur l'alopécie de son épouse.
Eh bien, pour éviter
qu'un tel incident ait lieu cette année, en tout cas, ça avait choqué, l'Académie a prévu une équipe de crise censée tout gérer, tout anticiper, on verra si ça suffit et surtout...
Des agents de sécurité quoi.
Bah oui, on va dire ça comme ça. Non mais ils sont chargés d'aller voir les uns et les autres, voir si tout se passe bien, enfin voilà. Et, en tout cas je vous donnerai le palmarès lundi évidemment puisque c'est dimanche. Donc je vais suivre ça.
Donc tu vas suivre ça et lundi matin tu reviens avec tous les Oscars et surtout tu nous raconteras les coulisses parce qu'on va pas se cacher.
C'est ouais, je vous dirai s'il y a des tâches aussi sur ce fameux tapis blanc.
Oui, il n'est pas rouge.
Bah oui, compliqué.
Hein pas, ça me semble pas
ah
super
ouais,
joli.
Plutôt, moi non plus, je suis pas fan, mais bon.
Bon, écoute, on suivra ça sur RMC aussi lundi matin. Le retour de Charles, tiens, je vous le glisse au passage comme ça. Lundi matin sur RMC. Tiens.
RMC,
la voix du jour.
La voix du jour qui vous permet, vous le savez, de gagner tout de suite au 32-16. Comment ça se passe, Anaïs?
Eh ben, je rappelle le principe pour ceux qui nous rejoignent. On va écouter un petit extrait d'une personnalité, c'est simple. Si vous reconnaissez sa voix, vous faites le 32-16 pour gagner.
Vous imaginez la mère des réformes de ce quinquennat adoptée sans vote par un 49-3 et adopter une telle réforme qui touche au quotidien des citoyens de cette façon-là. Je pense que c'est déjà assez compliqué, mais ça peut mettre le feu aux poudres.
Alors c'est qui est ce monsieur qui parle?
Alors,
on l'entend beaucoup en ce moment.
Oui.
J'ai donné son nom tout à l'heure.
Oui, exactement.
Je vous ai dit qu'il serait...
On va pas dire son organisation syndicale.
Ah bah voilà. Non, je l'ai dit tout à l'heure.
Voilà, c'est déjà, c'est déjà un lundi en soi là.
Je vous ai même dit tout à l'heure qu'il serait l'invité d'Apolline dans le face-à-face sur
RMC.
C'est bien,
voilà.
À 8h30. Bon, je crois qu'on l'entend suffisamment pour... vous avez suffisamment d'indices pour gagner. D'ailleurs, on gagne quoi ce matin?
Alors, on gagne une montre bracelet, un bracelet Finrock de la marque Les Interchangeables, des bijoux ornés de cristaux, 100% fabriqués en France. C'est un joli cadeau.
Oui, c'est un joli cadeau. Eh bien, vous appelez Quentin et Alexandre au standard et puis le gagnant sera avec nous juste avant 5h30 tout à l'heure.
La voix du jour sur RMC avec Les Interchangeables, la marque de bijoux et accessoires tendance entièrement fabriquée en France.
Avant 5h30, là dans la prochaine demi-heure, on va sourire ce matin avec le meilleur d'Arnaud Demanche. Votre rendez-vous avec celui qui est chargé de nous faire rire tous les matins. Mais d'abord avec toi Anaïs, on va mentir ce matin.
Oui, on va parler des CV qui sont souvent embellis pour pouvoir décrocher un boulot. C'est ce que montre une enquête réalisée l'an dernier. Je vais tout vous expliquer et Quentin va se confesser.
peut-être. On va voir ça. Et votre débat ce matin, vous ne l'oubliez pas, la réforme des retraites, la mobilisation est-elle en train de s'essouffler? Est-ce que vous êtes soulagé? Au contraire, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous embête? Comment se mobiliser à l'heure de l'inflation? Est-ce qu'il faut multiplier les actions coup de poing, comme le font les syndicats les plus radicaux? Vous nous écrivez sur l'application Direct Studio et vous nous appelez ce matin au 32-16. À tout de suite.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Quentin Vinet.
Allez, bon réveil à tous sur l'antenne ce matin de RMC. Il est 5h09 et c'est l'heure de l'info en plus dénichée par Anaïs.
RMC, Charles Matin.
Le choix d'Anaïs.
Et Anaïs, ce matin, tu as choisi de nous parler de ces petits mensonges qu'on est prêt à faire pour décrocher un travail.
Oui, parce que tu sais comment ça se passe quand tu cherches un boulot. La première étape, c'est de rédiger un bon CV, ce qui est loin d'être évident, mais c'est primordial pour taper dans l'œil du recruteur, qui n'est pas toujours facile à suivre.
Oui, c'est exactement ce que le client recherche. Curriculum vitae excellent, rien à dire sur le bilan des compétences. Le seul détail gênant, c'est que vous soyez actuellement sans emploi.
Alors, pour se faire recruter, la tentation est grande d'enjoliver un peu les choses, la réalité, ce que font de nombreux Français. C'est ce que montre une étude réalisée par un cabinet de conseil l'an dernier. Ils ont interrogé les candidats et 66% ont avoué avoir déjà modifié volontairement leur CV.
Pinocchio. Qu'est-ce qu'il a, mon nez ?
Des petits mensonges qui ne choquent plus grand monde sur les personnes interrogées. 9 sur 10 estimaient que c'était un procédé tout à fait normal finalement.
Attends, mais 66%, c'est énorme. On a 2 Français sur 3 qui disent que bon, bah voilà, on a un peu enjolivé le truc, on a un peu menti. On parle de quoi d'ailleurs quand on dit mensonge ?
On parle de petits ajouts. Certains candidats n'hésitent pas à dire qu'ils ont fait telle ou telle école alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. À l'inverse, 20% ont déjà supprimé un diplôme de leur CV. On ment aussi sur son expérience, ses responsabilités et sur ses compétences, notamment. Quentin, en matière de langue.
Ah oui, là je confirme.
Alors ça, les amis, c'est risqué parce que ça se vérifie très facilement.
Vous parlez anglais ?
J'ai entendu.
Do you know our project in our society ?
Yes, on me.
Really ?
Not on me. Not...
Oui, enfin, vous ne parlez pas l'anglais.
Mais bon, en effet, on l'a tous déjà fait. Anglais lu, écrit, parlé, Quentin Vinet.
Ah non, pas du tout. Lu un peu, parlé moyen. Non, en vrai, mais c'est une catastrophe.
Mais t'étais bilingue sur ton CV, je suis sûr. Allez, vas-y.
Non, mais tu sais, j'avais mis une formulation un peu alambiquée, type à même de faire des reportages, je sais plus ce que j'ai mis en anglais, en espagnol, et je crois que j'ai même eu le culot de mettre en italien.
Ah bon ? J'aurais adoré voir tes reportages en italien, Quentin. On ment aussi sur ses compétences informatiques.
Tu ne sais pas appliquer avec un doigt, comme ça, là.
Toi, tu sais ce que c'est qu'un email ?
Par exemple, si vous êtes journaliste, vous mettez plein de noms de logiciels de montage en priant pour ne pas tomber sur un spécialiste. Et puis, vous vous inventez des passe-temps pour faire genre kitesurf, escrime, yoga. Et puis, vous avez évidemment fait le tour du monde.
Ouais, bah, je reviens d'Australie, là. Ouais, j'ai fait toutes les plages californiennes. Ouais, Biscarrosse, les Mésantes.
Enfin, plus sérieusement, certains mentent sur leur identité, nom, prénom, origine, pour ne pas être discriminés, parce que les discriminations à l'embauche, c'est encore une réalité.
Oui, et ça, c'est un vrai sujet qui est nettement moins marrant. Qu'est-ce qu'on risque ? Qu'est-ce qu'on risque quand on ment sur son CV ? Ça, c'est une vraie question qui va intéresser tout le monde.
Vous risquez gros si vous êtes un véritable escroc, si vous n'avez pas du tout les compétences, mais aussi si votre mensonge a eu une influence déterminante sur la décision de vous prendre. Exemple, si vous êtes commercial et que vous candidatez pour vendre des fenêtres, et que vous avez écrit que vous faites ça depuis 10 ans chez un concurrent, alors qu'en fait, vous vendiez des maillots de bain, ça c'est un gros mensonge qui peut motiver un licenciement. Sinon, c'est pas systématique, évidemment. Et la justice considère que c'est à l'employeur de vérifier les informations que vous mettez sur votre CV. Quentin, t'inquiète, tu seras plus démasqué. En plus, ici, tout le monde s'accorde à dire que tu fais parfaitement le job.
Bon, alors ça c'est... ça c'est gentil, mais non, mais tu fais bien de le préciser. Mais après, je suis désolé. Enfin, un employeur qui cherche quelqu'un de bilingue en anglais, j'en sais rien, pour partir à Londres ou à New York, enfin, il va évidemment vérifier que son candidat parle bien anglais.
Si c'est pour partir à Londres, oui, j'imagine qu'il va vérifier.
Mais pareil pour les logiciels, pareil pour les compétences, pareil pour ces choses-là, j'en sais rien. Un commercial, évidemment, tu vas savoir s'il sait vendre quelque chose. Enfin,
moi j'ai déjà raconté sur un de mes CV que je maîtrisais parfaitement à vide, alors que bon, bah, j'avais fait des formations, mais je pense que j'avais besoin encore de bosser le sujet, tu vois.
Voilà, t'as gonflé, quoi.
Évidemment qu'on rend les choses plus belles sur son CV, on se rend plus beau. Oui, mais c'est normal.
Ça ne coûte rien. Bon, sujet intéressant ce matin, les mensonges sur les CV. On peut en parler, tiens, si vous voulez, au 32-16. Est-ce que vous avez déjà menti sur votre CV? Vous pouvez nous raconter aussi sur l'application Direct Studio. Mais pour l'heure, à 5h13 sur RMC, il y a Sébastien qui nous passe un coup de fil. Sébastien, vous nous appelez de Loire-sur-Rhône. C'est ça, c'est où exactement, Sébastien? Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour à l'équipe.
C'est
et puis toutes mes condoléances à Charles.
ça continue ce matin.
Le pauvre, il est même pas là. Vous continuez de l'enterrer, le pauvre.
Ouais, mais j'aurais dû passer hier. Mais le problème, c'est qu'hier, vous avez eu beaucoup de demandes, donc j'ai pas
mais
été rappelé.
Mais on lui passera le message. On lui passera
voilà,
le message.
Voilà, vous lui passerez le message. Il y a Mehdi aussi qui disait que l'OM, ça faisait plus de 40 ans qu'ils avaient rien gagné, mais nous, l'étoile, on l'a et on n'avait pas besoin de dépenser des milliards.
J'adore. Vous êtes dans le Rhône et vous êtes supporter de l'OM, c'est ça?
Oui, je déteste Jean-Michel Aulas, donc c'est vite réglé. Hein.
Voilà, pour vous, il y a qu'un seul Olympique et il est Marseillais, j'ai bien compris.
Sébastien, sinon je vous appelais pour les réformes des retraites.
C'est
pour
ce que j'allais vous dire. Vous êtes mobilisé ou pas, Sébastien?
Non, du tout. Moi, je ne suis pas mobilisé. Je soutiens moi une grève pacifiste. C'est-à-dire, moi, je veux bien que les gens manifestent, qu'ils soient contre, parce que c'est vrai qu'on a quand même un président qui est, je crois que sur la 5e République, le pire des pires, qui n'écoute personne, qui se prend pour Dieu, quoi. En plus, il a quasiment mon âge, donc ça fait un peu ragé, mais bon, de là à bloquer les gens qui veulent aller travailler, comme moi, je travaille de nuit, je pars à 21h de chez moi, je rentre à 7h du matin.
Vous faites quoi, Sébastien? Expliquez-nous.
Moi, je travaille en usine, je suis opérateur laser, donc je m'occupe de machines, je rentre des matériaux et tout ça. Donc, de ne pas avoir d'essence, et moi, je suis à 40 km de mon domicile par rapport à aller au travail, donc 80 aller-retour, le plein, il me fait à peine la semaine. Donc, bloquer les raffineries, empêcher les gens d'aller travailler, alors que bon, on est des ouvriers de base, hein, donc on ne coule pas sur l'or. Donc, si nous on travaille pas, on n'est pas payé. On est en privé, on est une petite PME. On a un patron qui est assez sociable, sympa, qui comprend les choses, qui est là pour nous aider ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est pareil, il roule pas sur l'or. On tape toujours sur les TPE, les PME, les petits ouvriers, mais les gros, on les laisse tranquilles, quoi.
Attendez, mais Sébastien, je comprends pas finalement. Vous en voulez à qui? Vous en voulez aux raffineurs qui sont mobilisés contre la réforme des retraites, ou Emmanuel Macron qui veut percevoir les syndicats?
Voilà, j'en veux aux deux.
Ok.
Aux deux, dans un sens où faire grève, d'accord. J'en veux à Macron parce que il s'occupe de personne, il voit que par lui, il refuse de recevoir tout le monde, il se décharge, il veut passer en force alors que c'est bon, c'est pas terrible. Par contre, les syndicats, oui, ils ont raison, mais ils ne devraient pas bloquer les autres.
Mais est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils ont le choix? Ils n'arrêtent pas de dire, nous, on n'est pas entendus, on demande à être reçus même par Emmanuel Macron.
Ils ne sont pas entendus, je suis d'accord, mais bon, je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens que de pénaliser les gens qui ne peuvent pas faire comme eux, qui n'ont pas de caisse de soutien de la CGT pour leur payer leur jour de grève.
Mais quoi, justement, quoi alors? Comment faire grève sans embêter? Enfin, ça, c'est une vraie question.
Ou alors, si, mais embêter l'État, carrément, je sais pas. Par exemple, EDF, ils ont qu'à aller couper le courant au ministère, ils ont qu'à aller couper le courant à l'Élysée, ils ont qu'à aller manifester devant l'Élysée, enfin, je sais pas, faire des choses comme ça. Mais pas embêter les gens qui doivent aller travailler.
Multiplier les actions coup de poing, mais c'est d'ailleurs ce qu'est en train de faire la CGT, Force Ouvrière et les autres syndicats contestataires, plus que les syndicats réformistes d'ailleurs. C'est ce qu'ils font en multipliant les actions coup de poing. On parlait tout à l'heure de Marseille, la gare Saint-Charles, qui a été bloquée par des enseignants hier à la mi-journée. Il y a eu aussi des coupures de courant sur le chantier du village olympique en région parisienne, tentative de coupure au Stade de France. Il y a eu le blocage du péage du Boulou hier près de Perpignan. C'est comme ça finalement que les syndicats peuvent réussir à bloquer le pays.
Je suis entièrement d'accord avec ce genre de choses, parce que ça n'impacte pas forcément les gens qui peuvent aller travailler. Enfin, les gens qui se déplacent, qui doivent aller travailler, non. Mais empêcher les gens de pouvoir se déplacer, tout ça. On sort de Covid, on sort de tout ça. Mais des contraignants, le pouvoir d'achat, où c'est que c'est compliqué. Si les gens ne peuvent pas travailler, ben, comment on fait? Enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas dans des structures qui peuvent se le permettre. Vous êtes dans une grosse boîte, vous êtes dans des gros syndicats, vous pouvez. Nous, il n'y a pas de syndicat, nous, on est moins de 20 personnes. Enfin, je veux dire, c'est vachement compliqué.
Et j'ai l'impression, à vous écouter, en plus, Sébastien, que vous êtes, il y a une forme de résignation un petit peu dans votre discours, dans ce que vous pensez.
Très bien.
Ouais, on tout sait ça pour ça, c'est un peu ce que vous nous dites, quoi.
Voilà, on sait très bien tous que la réforme passera, que s'il n'a pas, au niveau de l'Assemblée, quand ça va revenir la semaine prochaine,
mercredi,
s'il n'a pas la majorité, il fera le 49-3. Et puis à l'arrivée, on fera quoi? Rien du tout. Ce qui est malheureux dans ce pays, c'est que pour être entendu par l'État ou quoi que ce soit, c'est malheureux, hein, c'est malheureux à dire, mais moi je me rappelle que j'ai manifesté contre le CPE, c'est la seule fois où je l'ai fait.
Ouais, à début des années 2000.
À l'époque, j'étais jeune, c'est parti quelque part en crabe. Il y a eu des casseurs, des choses comme ça. Ça a été retiré. Les gilets jaunes, ils ont obtenu quelque chose il y a quelques années avant le Covid. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout cassé. C'est quand même dommage de devoir passer aux yeux du monde pour n'importe quoi, casser pour obtenir quelque chose. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est un peu compliqué, quoi. Donc là, on sait qu'on va se taper 49-3 parce que c'est des spécialistes.
Et puis bon, pour la suite de la mobilisation, bon, on verra surtout comment elle se termine. On a bien compris ce que vous nous dites, Sébastien. Je rappelle que vous nous appeliez de Loire-sur-Rhône ce matin. Vous avez composé le 32-16. C'est super intéressant ce débat. Comment faire poursuivre, faire durer cette mobilisation à l'heure de l'inflation, à l'heure aussi où on voit que même des secteurs très mobilisés, comme les cheminots, comme les raffineurs, comme les éboueurs, des secteurs qui ont l'habitude de se mobiliser massivement, des secteurs comme ça, eh bien sont un peu en train, on le voit à la RATP, sont un petit peu en train de lever le pied en ce moment, à la RATP, les conducteurs de métro en région parisienne qui font une pause, qui font stop jusqu'à mercredi prochain, date d'une prochaine journée de mobilisation. C'est un débat qu'on poursuit ce matin tous ensemble au 32-16 et sur l'application Direct Studio. Bon réveil à tous sur RMC. Il est 5h19.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
Bonjour Arnaud.
Bonjour Pauline, bonjour les amis, bonjour à tous nos auditeurs. Très heureux de vous retrouver ce matin, d'autant que j'ai appris qu'on allait se voir sans doute désormais 2 ans de plus. Puisque l'article 7 sur la retraite à 64 ans a été voté cette nuit par le Sénat. Donc voilà, 2 ans de plus avec le réveil à 4h du matin, Pauline.
Ouais,
en 2047, vous serez encore à ce bureau et vous direz
« Alors ce matin à 8h30, je recevrai Kevin Balladur et demain, il y aura Kimberley Darmanin qui a rencontré hier Matteo Martinez pour débattre de la retraite à 87 ans. Mais tout de suite, on retrouve, je sais plus, à vous Charles, merci Apolline. Hier, nouvelle élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais le club a décidé de frapper un grand coup sur le marché des transferts. On y croit pour l'année prochaine. Et tout de suite, Amélie Rozic. Au fait, Amélie, félicitations. J'ai appris que votre mari avait obtenu son baccalauréat. Oh, il est si jeune, ce garçon. Ça me rappelle des souvenirs.
En attendant, les syndicats ne s'avouent toujours pas vaincus. Ils ont demandé à être reçus par Emmanuel Macron. Ça n'en finit pas. Aujourd'hui, c'est donc le 7654e épisode de votre série préférée, Les Feux de la Retraite. Dans le dernier épisode des Feux de la Retraite, Philippe, le séduisant syndicaliste moustachu, et Laurent, le charismatique leader contestataire, ont tout fait pour attirer l'attention d'Emmanuel. Hélas, la grande parade qu'ils avaient organisée pour que le président les regarde enfin n'a pas généré la moindre réaction de ce dernier. Dans une ultime lettre, les deux hommes supplient Emmanuel de les recevoir.
« Ouais, monsieur le président, faut nous écouter, là, les gens sont désespérés !»
Philippe, toi et moi, ce n'est pas possible. Puis si les gens veulent que je les console, ils ont qu'à être noirs et perdre une finale de Coupe du Monde. Là, je vais leur ébouriffer les cheveux.
Non mais Manu, je suis sûr que tu peux entendre ce que j'ai à dire. N'écoute pas les gens qui disent que c'est impossible. Non,
mais je les écoute pas, hein. J'écoute personne. C'est juste que j'en ai rien à foutre de ce que tu veux me raconter. Alors certes, Olivier Véran a dit que la porte du gouvernement était ouverte. Mais là aussi, si j'étais Philippe Martinez, je me méfierais. Olivier Véran, il va lui dire « Tiens Philippe, tu vois, la porte est ouverte là, tu peux y aller. » L'autre, il va passer la porte et à ce moment-là, blam ! Allez hop, à double tour dans le KGB, Super Mario. Clic, clac, on balance la clé.
RMC, Charles Matin.
C'est tous les jours de manche.
C'est tous les jours de manche à 7h20 et 8h20 dans Apolline Matin avec Apolline qui sera là tout à l'heure à 6h30 sur RMC et sur RMC Story. Mais à 5h24, c'est l'heure de vous faire gagner.
RMC,
la voix du jour.
Et c'est Geoffrey. C'est Geoffrey qui est avec nous au 32-16 ce matin. Bonjour Geoffrey.
Bonjour.
Bonjour Geoffrey. Comment ça va d'abord ce matin?
Écoutez, ça va. Un petit peu fatigué parce que je rentre du travail. Mais
qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis chauffeur livreur.
D'accord. Et donc, vous étiez où là? Vous êtes allé où cette nuit donc?
De nuit, j'ai livré une cinquantaine de clients à peu près.
Ok. Vous pensez avoir reconnu la voix du jour? C'est simple, on réécoute ensemble et on a votre réponse dans la foulée.
Vous imaginez la mère des réformes de ce quinquennat, adoptée sans vote par un 49-3, et adopter une telle réforme qui touche au quotidien des citoyens de cette façon-là, je pense que c'est déjà assez compliqué, mais ça peut mettre le feu aux poudres.
Alors Geoffrey, c'est qui ce monsieur qui parle?
Donc c'est Philippe Martinez.
Je crois que vous avez gagné, effectivement. C'est une bonne réponse, Geoffrey. Philippe Martinez qui sera d'ailleurs l'invité d'Apolline de Malherbe tout à l'heure à 8h30 sur RMC et sur BFM TV. Qu'est-ce qu'il gagne, Geoffrey, Anaïs?
Une montre bracelet, un bracelet Finrock de la marque Les Interchangeables. Très beaux bijoux qui sont made in France, tout simplement. Bravo.
Ah bah, super, merci beaucoup.
Donc là, Geoffrey, vous allez vous coucher?
Oui, là je vais prendre un petit déj et puis après aller me coucher. Ouais.
Le petit déj avant d'aller se coucher, on fait pareil.
Ouais, ouais. Bah, écoutez, il faut bien manger. Quoi.
Le réconfort.
Voilà, le réconfort. Un petit chocolat chaud, un jus d'orange avant d'aller
exactement.
Dormir.
C'est comme ça. Non, c'est un jus d'orange.
De
un petit cacao. Ouais.
Allez, on vous souhaite une bonne journée et Geoffrey, allez, une bonne nuit surtout à l'écoute de RMC. À 5h25, tiens, 5h25, Anaïs, tu nous dis qu'il y a le nouvel album de Miley Cyrus qui va sortir dans...
Bah aujourd'hui.
Aujourd'hui, je pense. Hein. Dans la journée, c'est ça?
Ouais, il s'appelle Endless Summer Vacation, le 8e album de Miley Cyrus, album dans lequel il y a déjà donc un méga tube que vous entendez, Flower, sorti en janvier dernier. Vous n'avez pas pu y échapper, c'est un hymne au célibat dans lequel elle adresse un message à son ex. J'adore le refrain, écoutez ce qu'elle dit en gros. Quand ça s'est fini, j'ai commencé à pleurer, je me suis rappelé que je peux m'acheter des fleurs à moi-même, je peux écrire mon nom sur le sable, me parler pendant des heures, danser avec moi-même, me tenir les mains, je peux m'aimer mieux que tu m'aimes, chante-t-elle. Énorme carton depuis sa sortie, 500 000 000 d'écoutes sur Spotify. On verra si les autres titres rencontrent le même succès. Il y en a à peu près une douzaine et une collaboration notamment avec Sia. Donc c'est à découvrir, ça sort donc aujourd'hui. Et il y a une émission spéciale aujourd'hui sur la chaîne Disney+, parce que tu te rappelles qu'elle vient de Disney Channel.
Oui, exactement.
Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est à découvrir aujourd'hui.
On l'écoute, Miley Cyrus, c'est un
j'adore, carton sur mais TikTok. Moi j'adore cette chanson.
Je suis partie de ses fans depuis qu'elle est sortie cette chanson.
Non, mais je trouve que, ouais, elle met la patate. Ouais, j'aime bien. Ouais.
Écoute 15-20 secondes, paf, t'as la patate pour la journée.
Ah là, vous allez l'avoir dans la tête.
Oui, c'est vrai.
Mais il y a pire.
Et c'est une chanson qui s'écoute en boucle. Il y a Géraldine d'ailleurs qui arrive dans le studio de RMC là, en dansant. Je vous en passe exactement ce qui se passe. Géraldine qui est en train de danser. Géraldine, on se détend quand même hein, ce matin. Tu arrives avec les prévisions météo dans un petit instant. Et puis il y aura aussi les infos à suivre sur RMC 5h27.
RMC, 4h30, 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Quentin Vinet.
Et à 5h39 sur RMC, est-ce qu'il faut mettre un coup de frein aux ZFE?
C'est la question du jour sur RMC.
On a l'impression que le vent est en train de tourner. La contestation monte contre ces fameuses ZFE dont on vous parle beaucoup sur RMC. Ce sont les zones à faible émission qui se mettent en place petit à petit dans les grandes villes. Tiens, d'abord, juste Anaïs, un petit rappel, c'est quoi une ZFE?
C'est une zone à faible émission, périmètre avec restriction de circulation pour limiter la pollution. Le but, c'est de limiter l'accès des véhicules les plus polluants avec le fameux système de vignettes critères. 11 métropoles ont mis en place des ZFE et une généralisation est prévue dans les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici 2025. Mais dans les métropoles concernées, eh bien, ça ne fait pas l'unanimité, notamment à Toulouse qui interdit l'accès des véhicules critères 4 et 5 dans sa ZFE depuis le début de l'année et qui va l'interdire aux critères 3. Et dès le 1er janvier 2024, sur place, la colère monte dans la population et chez les élus de droite comme de gauche. Ils affirment qu'il n'y a pas assez d'alternatives pour les automobilistes, que ce sont les plus modestes qui vont payer. À Lyon aussi, le calendrier prévoyait l'interdiction des véhicules essence et diesel avec une vignette critère 2 en 2026. Mais Bruno Bernard, le président écolo de la métropole, a annoncé l'assouplissement du calendrier. C'est repoussé de 2 ans finalement.
Voilà, donc on a plusieurs des grandes villes comme ça qui repoussent. Toulouse, Lyon, Perpignan aussi, où le maire RN a fait voter une motion contre les ZFE à l'automne dernier. D'ailleurs, au Rassemblement National, vous allez l'entendre, les élus comme Laurent Jacobelli voudraient que la France fasse marche arrière en expliquant que ces ZFE excluent les plus pauvres qui ne sont pas à même de s'offrir, comme on dit, un véhicule moderne.
Il faut arrêter avec ces ZFE. Ces ZFE, c'est simplement dire aux Français qui gagnent moins de 5 000 € par mois, ceux qui ne vivent pas en centre-ville, eh bien, ne venez pas chez nous dans les centres-villes, on ne veut pas de vous. Parce que imaginez que tous les Français vont pouvoir s'acheter une voiture électrique à 40 000 €, c'est complètement illusoire. Bref, tous ceux qui habitent les banlieues, tous ceux qui habitent les zones rurales seront interdits de ville. La France se déshonore à créer une population à deux vitesses, ceux qui bénéficient de tout et ceux qui n'ont plus rien. Les ZFE, clairement, sont des mesures anti-pauvres et anti-ruraux. Bref, c'est une mesure injuste, inégalitaire et complètement anachronique.
Oui, mais pour Karima Delli, députée européenne, présidente de la commission transport au Parlement européen, pas question de reculer, on n'a pas le choix, il faut en finir avec la voiture thermique. Ce qu'il faut, dit-elle, c'est aider les plus précaires.
Accessible, ça veut dire que les ZFE ne pourront être mis en place que s'il y a l'alternative pour les gens. Les alternatives, il faut les booster. Les transports en commun, il faut les rendre accessibles. On ne va pas virer les vieilles voitures du jour au lendemain. Ça, c'est faux, c'est mentir. Quand vous achetez un véhicule, vous l'achetez pour 15-20 ans. Donc, vous voyez, dans les années à venir, il y aura encore des véhicules thermiques, ça va rouler. La voiture de demain, ce n'est pas un SUV. C'est-à-dire ces grosses voitures qui prennent de la place dans les centres-villes. Ce n'est pas ça. Demain, la voiture, elle sera beaucoup plus petite, elle sera assez accessible au plus grand nombre. La véritable question, notamment pour les plus pauvres, c'est de leur donner la priorité sur les alternatives.
Voilà, vous entendez les avis des uns, des autres, qui évidemment ne sont pas d'accord à propos de ces ZFE. Faut-il en finir ? Tiens, faut-il reculer sur l'intégration de ces ZFE ? On peut aussi parler des moteurs thermiques. Est-ce qu'il faut laisser plus de temps pour la mise en application de ces zones à faible émission ? Est-ce que vous avez anticipé la fin des vieilles voitures ? On en débat ce matin sur RMC au 32-16. Géraldine, t'es avec nous en studio. Je sais que c'est un sujet qui t'agace, mais profondément.
Ah non, mais moi ça me rend dingue. Et à un moment, faut arrêter de reculer en se disant, bon, après tout, on va bien voir comment ça se passe. Non, mais c'est plus possible maintenant. 47 000 morts dus à la pollution en France en 2021. Donc là, on attend quoi ? Non, au contraire, il faut profiter de ce temps qu'on a d'ici 2035 pour trouver des alternatives, pour former sur les nouveaux métiers, pour accompagner justement les plus précaires, pour trouver les moyens. On a jusqu'à 2035 pour le faire. Et puis, il faut bien se dire que ne rien faire va coûter beaucoup plus cher. Donc, c'est qui va payer à ce moment-là ?
Mais là, ce que tu dis, se laisser du temps pour 2035, c'est aussi ce que dit l'Allemagne qui vient de faire marche arrière sur les moteurs thermiques et l'interdiction qui était prévue en Europe en 2035. C'est aussi l'argument de l'Allemagne qui dit, d'ici 2035, on a le temps de trouver un carburant synthétique qui sera moins polluant que le pétrole.
Oui, mais moins polluant, ce sera quand même toujours polluant.
Donc c'est vrai que c'est plus 100% de...
Ce sera quand même toujours trop polluant. Là, on a 12 ans pour mettre des choses en place. Mettons-les maintenant, il faut y penser maintenant.
Et ben voilà, vous pouvez réagir aussi à ce que dit Géraldine ce matin au 32-16. Je sais que c'est un sujet dont on parlera tout à l'heure avec Apolline dans Apolline Matin. Mais pour l'heure, le sujet qui vous fait réagir au 32-16, c'est la réforme des retraites et cette mobilisation qui, semble-t-il, est en train de s'essouffler avec certains secteurs qui lèvent le pied. C'est le cas dans les transports à Paris, la RATP qui fait une pause jusqu'à mercredi prochain. On est avec Cédric et Harold ce matin qui ont composé le 32-16. On va commencer par Cédric. Cédric qui nous appelle de Sainte-Pavas. C'est à côté du Mans. Cédric, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la réforme des retraites ? Est-ce que vous avez l'impression que le mouvement est en train de s'essouffler ?
Alors, moi, en ce qui me concerne, pour moi... Moi, j'ai participé à toutes les manifestations. Bon, je croyais vraiment que, avec ce sujet des retraites et puis les prix qui flambent, je me disais, ouais, là, c'est le bon moment, quoi. Les gens vont bouger un peu plus. Moi, je vois que c'est un petit peu frileux, tout ça, parce que tout le monde appelle, tout le monde, oui, je peux pas faire grève, ceci, cela, mais là, pour moi, c'était maintenant, parce que depuis le temps moi, je trouve que la gamelle, elle chauffe et il se passe rien. Là, c'était maintenant, quoi.
Cédric, mais vous sentez de la résignation autour de vous. Vous-même, on entend votre résignation là.
Ah, moi, c'est fou. Là, c'est bon. Samedi, j'irai pas, parce que bon.
Vous bossez ?
Pourquoi ? Pour ?
Demain, vous travaillez ou pas ?
Ouais. Moi, je travaille la nuit, donc. Chaque mouvement de grève, je faisais ma nuit et après j'allais faire la grève, quoi. Et donc, mais demain, non, j'irai pas, j'arrête, parce que de toute façon, c'est foutu, il se passera plus rien du tout. Aller défiler, et puis, pour faire quoi maintenant, pour faire quoi? Les syndicats, même, je suis sûr que eux, au fond d'eux, comment je veux dire, ils le savent très bien que ça va passer. Ils le savent très bien. Moi, j'aurais plutôt suivi quand même Monsieur Martinez, parce que deux premiers mouvements de grève, je me disais il va prendre un petit peu les choses en main, mais Monsieur Berger, un petit peu trop frileux, quoi. Pour moi, ils savent très bien, ils savent très bien.
Et c'est pour finir. Cédric, oui. je vous coupe, il y a Harold qui nous appelle aussi. Harold, vous avez composé le 32-16, vous aussi, ce matin, depuis Lambesque, ça c'est à côté d'Aix-en-Provence. Harold, bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Vous aussi résigné ? Oui.
Moi, résigné aussi, mais bon, après, j'y crois encore, parce que bon, je ne vois pas travailler jusqu'à 64 ans. Et puis bon, au lieu de faire des blocages comme ils font, moi, je ferai à la japonaise les transports gratuits. J'emmerderai pas les Français, et tout le monde serait content. Et quand on perd de l'argent, vous inquiétez pas, ils vont les recevoir au ministère.
Vous pensez que c'est comme ça qu'il faut poursuivre la mobilisation ?
Ah oui, la japonaise, la RATP gratuite, les transports gratuits. Bon, l'essence, ça serait du vol, on peut pas le faire. Ouais. Donc, blocage des raffineries. Mais moi, je suis d'accord, même si je dois galérer, moi, je fais trois pleins de semaine avec le camion, j'ai une petite société. Mais je serais d'accord avec eux, même si ça doit me mettre à l'arrêt, c'est normal. À un moment donné, on ne vous écoute pas, on est presque en dictature. Quand le président n'écoute pas le peuple, il n'y a plus de liberté. C'est anormal, je trouve. Je trouve que c'est anormal qu'on ne reçoive personne.
Il y a beaucoup de résignation, hein, que ce soit vous, Harold, depuis Lambesque, que ce soit vous aussi, Cédric,
tout le monde ce matin. Il n'y en a pas un qui croit vraiment que ça peut encore, que les choses peuvent encore changer, qu'on peut faire plier le gouvernement. Personne ce matin.
Mais pourtant, il y avait une manifestation monstre cette semaine contre la réforme des retraites, avec un record depuis le début de la mobilisation, nous disaient les syndicats. Il y a encore des journées d'action qui sont prévues. Il y a quand même des mouvements reconductibles. Hein. C'est le cas, par exemple, chez les cheminots qui vont poursuivre la mobilisation. Mais Cédric, c'est ce que nous disait Cédric. Cédric, vous êtes encore avec nous au 32-16 ce matin. Vous, la mobilisation, c'est fini. Même pas mercredi prochain, même pas si le gouvernement...
Non, pour moi, c'est fini. J'arrête. De toute façon, on voit bien la tournure que ça va prendre. Enfin, on voit bien. Non, pour moi, c'est fini. Et de toute façon, après, pour finir, moi, j'en veux aussi, aux politicards de droite, là. Parce que tous ceux qui ont retourné leur veste, là, qui sont venus manger dans le rotelier à monsieur Macron, là, trouver des petits arrangements entre eux, là. Moi, ça me fait rire, ça. Mais ces gens-là, faudrait qu'ils se regardent quand même dans une... J'espère qu'ils arrivent à se regarder dans une glace le matin avant de partir. Quoi. Parce que moi, j'écoute RMC. Monsieur Rotelio, je l'ai entendu avec Apolline Valherbe. J'ai entendu la semaine dernière Renaud Muselier avec, c'était pas Apolline Valherbe, je crois que c'était...
C'était Benjamin Duhamel.
Voilà. Non mais. Ils vont où ces gens-là? Non mais c'est... avant que monsieur Macron... devienne président, mais il fallait voir tout ce qui crachait sur lui, Monsieur Muselier, hein, et puis bien d'autres.
On sent beaucoup de colère, que ce soit chez vous, Cédric, on sent de la résignation, Cédric, Harold aussi, merci à tous les deux messieurs de nous avoir appelés ce matin au 32-16 depuis la région du Mans et d'Aix-en-Provence. On continue ce débat ce matin. Est-ce que vous y croyez encore ou est-ce que au contraire, vous êtes résigné avec cette mobilisation contre la réforme des retraites? Comment tient et peut durer dans le temps? Est-ce qu'il faut faire des opérations en péage gratuit, comme vous êtes nombreux à nous le suggérer ce matin au 32-16. On continue d'en discuter, mais pour l'heure, à 5h49 sur RMC, deux rendez-vous à suivre. C'est déjà demain, d'abord avec toi, Mélinda d'Avansoulas. Tu vas nous parler de quoi ?
Je vais vous parler du smartphone et des dangers. Comment les éviter ?
Intéressant, très intéressant même. Et puis Arthur, l'histoire du jour, Arthur ?
Ouais, je vais te parler d'un gros caillou, Quentin.
Oula, il va nous tomber sur la tête ?
C'est possible, c'est pas sûr, mais c'est possible.
Allez, ça fait très peur tout ça, à 5h49. Tout de suite, on se réveille avec les trois infos à la une avec toi, Naïs.
À la une ce matin, cette fusillade dans une église d'Hambourg en Allemagne. Une fusillade qui a fait plusieurs morts, au moins 7 selon le journal Bild. Les faits se sont déroulés dans une église des témoins de Jéhovah. On va y revenir en détail dans le journal de 6h. Cette tornade qui a traversé la commune de Pontarion en Creuse hier en fin d'après-midi. Résultat de nombreux dégâts matériels sur place et dans les communes tout aux alentours.
C'est vraiment des gros dégâts matériels. Vitres brisées, toiture arrachée, écroulement d'une grange.
C'est l'adjointe au maire de Pontarion, Martine Birbonne, que vous venez d'entendre. Et on y reviendra en détail dans le journal de 6h. Et puis Nice, dernière présente en français en Coupe d'Europe cette saison, s'est imposée en Moldavie contre le Sheriff Tiraspol 1-0 en 8e de finale allée de Ligue Europa Conférence.
C'est déjà demain.
Avec Mélinda d'Avansoulas. Bonjour à toi, Mélinda. Cette question, comment éviter les menaces courantes sur les téléphones, sur les portables, les mobiles? On parle ce matin de nos smartphones, cet élément qui est devenu incontournable, faut le dire. On en a tous un, il est dans ma main. Incontournable de notre quotidien qui centralise toute notre vie. Mais c'est aussi une menace permanente, à portée de main, Mélinda. Quelques conseils ce matin pour l'utiliser en toute sécurité avec toi.
Oui, alors en fait, il y a McAfee, le leader mondial de la protection en ligne, qui vient de dévoiler un rapport, en fait, avec les menaces qui nous guettent sur mobile, parce que notre smartphone, il a tout. Il a nos photos, nos contacts, notre agenda, nos secrets parfois inavouables aussi. Donc, c'est vraiment notre danger numéro un à portée de main. Eh bien, le rapport détaille les grandes tendances et donc les menaces.
Alors, quels sont les principaux risques avec notre smartphone?
Eh bien, le risque principal, ce sont les applications. On en charge tous des dizaines et des dizaines en permanence. Eh bien, les messageries, les jeux ou même les applications de productivité sont de véritables mannes pour les escrocs. En fait, vous allez sur les stores, vous chargez des applications qui ont l'air rigolotes. Et en fait, si vous ne faites pas attention à leur origine, eh bien, vous laissez rentrer des logiciels malveillants en les installant. Et là, le hacker, il peut juste se glisser dans votre smartphone et récupérer vos données personnelles.
Ah, génial.
Et l'arrivée de l'intelligence artificielle a doublé même le risque, selon le rapport. Parce que vous voyez de plus en plus d'applications, sans doute, vous savez, pour faire des images rigolotes en deux clics.
Ouais.
C'est rigolo.
Il y a des applications pour tout et n'importe quoi maintenant, de toute façon.
Eh bien voilà, exactement.
Mais comment ils font pour faire ça sans qu'on s'en rende compte?
Eh bien, ils sont malins, justement. Ils passent Une fois qu'ils ont installé cette application, eh ben, ils passent par votre messagerie. Vous avez tous reçu des SMS vous demandant d'aller voir vos informations sur Amélie, sur la CAF, sur les impôts.
Ouais. Ah oui, ça, tout le monde.
Voilà. Et ben ça, souvent, c'est le fruit d'une application qui est sur votre téléphone, qui a été
on
installée.
On a téléchargé innocemment en se disant ça va être rigolo, Candy Crush ou des choses comme ça. Et en fait, non, pas du tout.
C'est une porte ouverte en fait à des hackers. Alors, petit conseil tout bête, mais si vous avez un message qui vient d'un 06 ou d'un 07 et qui dit « Bonjour, je suis les impôts, allez-vous connecter ?» Il n'y a aucune chance que ce soit bon. Les services officiels ont toujours leur nom qui apparaît directement dans votre messagerie sans avoir besoin d'être dans vos contacts.
Un bon rappel ce matin, effectivement.
Des conseils, justement, est-ce que tu en as d'autres à nous donner ?
Alors, les conseils, c'est un peu tout bête et du bon sens, en fait. Gardez en tête que la plupart des escroqueries, elles jouent sur l'urgence pour vous. On va vous dire, oh là là, faites ça très très vite parce que sinon, il va se passer je ne sais quoi. Prenez toujours le temps avant de répondre à un message de quelqu'un que vous ne connaissez pas, surtout s'il est un peu menaçant, même s'il a l'air officiel. Il faut toujours prendre le temps et réfléchir. Truc tout bête, si c'est trop beau, qu'on vous promet la lune, forcément, il y a un loup. Donc ça, vous évitez. Les adolescents sont aussi la cible privilégiée des hackers parce qu'ils ne font pas attention.
Ah
donc
oui.
C'est extrêmement
donc
important.
Donc il faut les briefer. Quoi.
Discuter avec eux et surtout, si vous êtes parent, installer le contrôle parental.
Bien sûr.
Ce n'est pas du flicage, mais ça permet notamment de valider les applications qu'ils vont vous demander.
Ça vous marche vraiment ça ?
Oui, ça marche très très bien. Vous allez dans les réglages, vous pouvez contrôler le temps aussi d'utilisation des écran et vous pouvez dire s'il veut telle application, vous recevrez une notification sur votre propre smartphone pour vous dire est-ce que vous acceptez oui ou non.
Ok, bon, intéressant, mais c'est-à-dire que là un ado, on l'a à la maison,
là,
on peut...
Bon,
oui, on n'est pas là personnellement. Non, mais on peut lui dire à l'ado, contrôler ce qu'il télécharge et en étant à peu près en toute sécurité.
Voilà, vous pouvez le laisser un peu autonome, mais vous pouvez justement recevoir ce petit message. C'est tout bête, c'est pas du flicage.
Bon,
en fait.
C'est super intéressant, merci beaucoup. Il est 5h53 et c'est l'heure de sourire avec Arthur.
RMC, Charles Matin, l'histoire d'Arthur.
Alors là, on a la personne qui va mettre la bonne ambiance dans ce studio, c'est Arthur. Arthur qui nous annonce la fin du monde ce matin.
Oui, et ce sera le 14 février 2046, pile poil pour la Saint-Valentin.
Alerte générale !
Bon, j'exagère un chouïa, mais la NASA a révélé le 7 mars l'existence d'un astéroïde, son petit nom, 2023 DW. Alors, il se trouve à des millions et des millions de kilomètres de la Terre, mais il se dirige quand même un peu vers nous à la vitesse de 24 km par seconde.
Oh là là, il va s'écraser sur Terre, non ?
Alors, la probabilité actuelle calculée par la NASA est de 1 chance sur 600. Ça peut paraître beaucoup, mais dans ce domaine, et c'est vraiment très très peu. Alors, l'agence spatiale américaine va encore davantage étudier la trajectoire. Il y a plusieurs études qui sont prévues et les scientifiques se veulent rassurants. Dans ce genre de cas, la probabilité a tendance à diminuer, mais on ne sait jamais.
Et il se passe quoi s'il percute la Terre ?
Eh bien, ce gros caillou mesure 50 mètres de diamètre. On s'approche de la taille dite critique pour ce genre d'objet.
C'est une pluie de météorites.
Et le fragment que vous nous annoncez,
il est de quelle taille ?
C'est ce que nous appelons un exterminateur. Rien n'y survivra, même pas une bactérie.
Bon, en fait, tout dépend de la localisation, surtout du point d'impact éventuel.
Et ce sera où ?
Alors actuellement, c'est prévu dans un couloir assez large. Ça va du Sri Lanka aux États-Unis.
Ah oui, il y a une petite marge d'erreur.
Donc voilà, si cet astéroïde venait à faire un petit bisou à la Terre pour la Saint-Valentin en 2046, il est probable qu'il tombera dans l'océan. Sinon, faudra évacuer.
Allez hop, bonne journée.
Allez, bonne journée, merci Arthur. L'avantage quand même, c'est que le 14 février 2046, il y aura peut-être un match du PSG en Ligue des Champions.
Oh oui,
Anaïs, en quelques secondes avec toi, l'événement aujourd'hui, c'est sur la plateforme Amazon Prime qui sort la série 3 de LOL, Kiri qui sort.
Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, petit rappel des règles du jeu.
LOL, saison 3, ça commence maintenant. Évidemment, interdiction de rire.
Carton jaune.
Poussez carte. Mais obligation de tout faire pour faire rire les autres.
Le principe, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, sauf qu'il n'y a pas de claque à la fin. Mais 10 personnalités vont y participer à chaque fois. Il y en a une qui tente de faire rire. Les autres ne doivent pas craquer avec un casting exceptionnel pour cette saison 3. Leïla Bekti, Jonathan Cohen, François Damiens ou encore Virginie Efira. Le premier épisode, c'est aujourd'hui et les trois suivants le 17 mars.
Voilà, le rendez-vous qui est pris. Merci beaucoup, Anaïs. Il est 5h56, bon réveil à tous sur RMC. On se retrouve dans une petite minute sur RMC et sur RMC Story également. Bon réveil à tous, il est 6h sur RMC.
RMC Charles Matin.
Et Thibaut Texer qui nous rejoint pour les infos. Bonjour Thibaut.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. Une tornade balaye un village de la Creuse au sud de Guéret. De nombreux dégâts et par miracle, aucun blessé. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. Mouvement reconduit dans la plupart des raffineries, à l'inverse de certains secteurs où le mouvement s'essouffle. Et puis une fusillade en Allemagne fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Hier soir à Hambourg, dans une église, des témoins de Jéhovah.
Et donc cette tornade qui ravage un village de la Creuse.
Image impressionnante, vers 18h, un tourbillon de vent extrêmement fort s'avance sur le village de Pontarion et ses alentours. Pas de victimes ni blessés, mais les dégâts sont considérables. Pierre Bourgès, les 360 habitants de ce village sont sous le choc.
Au début, Daniel, un habitant de Pontarion, n'a pas tout de suite compris ce qu'il se passait.
Quand je l'ai vu, moi j'ai cru que c'était un incendie, hein. J'ai cru que quelque chose brûlait. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça se déplaçait.
Et là, il a vu se former une petite tornade qui a brièvement traversé la commune, mais pas seulement.
C'est la grêle qui est arrivée, alors des gros grêlons, gros comme des billes.
Daniel est alors rapidement rentré chez lui pour se mettre à l'abri.
Le temps que je fasse le tour pour aller récupérer des clés, de toute façon, je me suis rendu compte que les tuiles étaient par terre. Ça a été très rapide.
Rapide et aussi très violent, selon l'adjointe au maire de Pontarion, Martine Birnbaum.
C'est vraiment des gros dégâts matériels. Vitres brisées, toitures arrachées, écroulement d'une grange.
L'école, elle aussi, est touchée. Elle reste fermée aujourd'hui pour évaluer les dégâts et les réparations à apporter.
Et 11 départements sont ce matin en vigilance orange, 7 autour du bassin méditerranéen pour vent fort, 4 en Bretagne pour risque de vagues submersion en raison de la tempête Larissa. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit. De nombreux secteurs restent mobilisés aujourd'hui après la reprise de l'activité à Port-Jérôme-Gravenchon en Normandie. Les expéditions de carburant sont toujours à l'arrêt ce matin dans 6 des 7 raffineries de métropole. Plusieurs sites doivent voter pour ou contre la poursuite du mouvement. C'est le cas à la raffinerie de Petro-Ineos de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. C'est là que se trouve notre envoyé spécial Nicolas Repère en direct pour RMC. Nicolas, les salariés viennent de voter la poursuite du mouvement jusqu'à lundi.
Oui, hein, réunis en AG il y a une heure devant les cheminées fumantes de la raffinerie, la quarantaine de salariés a donc voté à l'unanimité la reconduite de la grève. La production de carburant est donc ralentie au moins jusqu'à lundi et aucune expédition n'a lieu. Concrètement, aucune goutte de carburant ne sort de cette raffinerie depuis le début de la semaine. Les syndicats CGT en tête se montrent déterminés ici. Pas question pour le moment d'abandonner le bras de fer contre le gouvernement tant que la réforme des retraites n'est pas abrogée. Lors de l'AG, les responsables syndicaux ont rappelé que les raffineurs sont à la pointe de ce mouvement. Et même si certains de leurs collègues dans d'autres raffineries en France ont voté la reprise du travail, on veut ici poursuivre la lutte. Le moral est bon, même si on est attentif à ce qui se passe dans le reste du pays, me disait Thibault, l'un des leaders du mouvement tout à l'heure.
Merci Nicolas Repère en direct de Martigues ce matin pour RMC. Encore des perturbations ce vendredi à la SNCF et cela devrait se poursuivre ce week-end. En moyenne, comptez un TGV sur 2, 2 sur 5 sur les axes Nord et Atlantique. En revanche, nette amélioration à la RATP. Seul le RERB restera très perturbé aujourd'hui. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation dans la rue, les représentants syndicaux demandent à être reçus par Emmanuel Macron dans un courrier adressé au chef de l'État. Les 13 organisations syndicales signataires pointent un grave problème démocratique lié au silence de l'exécutif face au mouvement social. Ils mettent en garde d'une situation qui pourrait devenir explosive. Pendant ce temps, le Sénat a adopté hier soir l'article 8 sur les carrières longues permettant de partir à 63 ans pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans. Les débats se sont ensuite enlisés au moment d'aborder l'article 9. Pour rappel, les sénateurs ont jusqu'à dimanche minuit pour aller au bout de l'examen. Il reste encore à 7h 12 articles et plus de 1000 amendements à étudier. RMC, il est 6h passé de 3 minutes. Les médias allemands évoquent un bain de sang après une fusillade hier soir en Allemagne. Ça s'est passé dans une église des témoins de Jéhovah à Hambourg. Les médias locaux évoquent au moins 7 morts et 8 blessés. Aucun bilan n'a pour l'heure été confirmé par les autorités. La police qui précise toutefois que l'assaillant figure au nombre de victimes. Les précisions ce matin de Mathieu Limongi.
C'est aux alentours de 21h que des coups de feu retentissent dans le nord d'Hambourg, comme le raconte cet habitant du quartier.
J'ai entendu 12 coups de feu et je me suis éloigné. J'ai vu des blessés graves, des morts enveloppés dans des sacs. C'était très difficile à voir.
Le bâtiment visé s'apparente de l'extérieur à des bureaux, mais il s'agit d'un lieu de culte appartenant aux témoins de Jéhovah. À l'intérieur, un rassemblement de fidèles. Les policiers proches du lieu de l'attaque arrivent rapidement. Holger Veren, porte-parole de la police d'Hambourg. mort. Les policiers ont trouvé des personnes grièvement blessées par arme à feu, plusieurs mortellement. Ils ont aussi entendu un coup de feu provenant de la partie supérieure du bâtiment et sont montés à l'étage où ils ont également trouvé un corps. Selon la police, il pourrait s'agir d'un tireur, même si pour l'heure, le nombre d'assaillants et les motifs de l'attaque restent encore inconnus.
C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. 31, c'est le nombre de féminicides depuis le début de l'année 2023. Dernière en date, hier à Béthune, dans le Pas-de-Calais, une femme a été tuée par son ex-compagnon sous les yeux de sa fille. Une femme de 48 ans qui, selon les informations du service police-justice à RMC, avait porté plainte le mois dernier contre son ancien compagnon Guillaume Bier.
Cette mère de famille avait dénoncé plusieurs fois les menaces de mort proférées par son ancien compagnon. Après un an de relation sans vivre sous le même toit, ils ont rompu le 1er février. Mais depuis, l'ex-conjoint multipliait les pressions. Trois fois déjà, la victime avait appelé la police, qui s'était déplacée, mais le suspect était déjà parti. Il a aussi tenté de se suicider avec des médicaments. D'après nos informations, il y a 15 jours, son ex-compagne a porté plainte pour ces menaces réitérées. Hier matin, l'homme de 52 ans les a mis à exécution. Entré par effraction, il a mortellement poignardé sa victime, dont la fille de 12 ans a été frappée à coups de poing en assistant à toute la scène. Elle s'est réfugiée chez des voisins qui ont donné l'alerte. Le suspect, lui, a été arrêté à son domicile, à une vingtaine de kilomètres.
Les précisions de Guillaume Bier, chef du service police-justice à RMC. Corinne Diacre n'est plus sélectionneuse de l'équipe de France de foot féminine sur la sellette. Depuis la mise en retrait de trois joueuses, elle a été démise de ses fonctions hier par le comité exécutif de la Fédération française de football. Et puis Nice prend l'avantage en huitième de finale aller de Ligue Europa Conférence. Les Aiglons se sont imposés hier soir 1-0 face au Moldave du shérif Tiraspol. Et puis, après les nombreuses critiques liées à la billetterie des Jeux de Paris 2024, la deuxième phase d'inscription va ouvrir ses portes. Ce sera mercredi prochain. Morgane Murray, 1,5 million de billets seront disponibles à la vente.
Les inscriptions pour cette deuxième phase vont s'étaler du 15 mars au 20 avril. Le 11 mai, les premiers tirs au sort pourront effectuer leurs achats. Interdiction de dépasser 30 places en prenant en compte les billets achetés lors de la première phase. Cette fois-ci, toutes les sessions sont ouvertes. Pour assister à la finale du 100 mètres masculin, dimanche 4 août, il faudra débourser entre 125 et 980 euros. Ouverture aussi des places pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. Sur les quais de Seine, les places au niveau de la route seront gratuites, mais en bas, les prix grimperont de 90 à 2700 euros. Pas de panique, il y aura encore des tickets à 24 euros. Les places les moins chères, environ 150 000 sur les 1 500 000 de cette phase. Mais comme lors de l'achat des packs, premier tiré au sort, premier servi.
Et ce seront des billets à l'unité inscription à partir du 15 mars. Notez la date, ce sera mercredi prochain.
Mais on a bien noté, Thibaut Texer. On a bien noté la date. 15 mars. Rendez-vous et prix, Thibaut. Rendez-vous et prix avec vous tout à l'heure. Vous revenez pour les infos à 7h sur RMC et sur RMC Story. Vous le savez, canal 23 de la TNT. Rendez-vous avant ça tout à l'heure à 6h30 avec Apolline. Apolline qui est bien là ce matin. C'est Charles. Charles qui est absent. Grâce matinée pour Charles Magnin ce matin. Mais on est tous ensemble avant 6h30. Je vous donne les rendez-vous de la matinée qui vous attendent. Il y aura Antoine Martin qui sera là, la Story Sport. On va reparler de Corinne Diacre, on va se pencher sur son cas. Il y aura Manu aussi, Manu Le Chypre qui sera là. On va se pencher sur notre compte en banque, ce qui nous reste à cette période du mois tout à l'heure avec Manu. Puis on va s'intéresser aussi, Anaïs, à la réforme des retraites toujours.
Oui, parce qu'à Paris, les ordures débordent de partout. Une partie des éboueurs est toujours en grève, mobilisée contre la réforme des retraites. On va en parler avec un éboueur parisien star sur le réseau social TikTok.
Ludovic Franchessé, bonjour à vous.
Bonjour,
Franchessé.
Voilà, parfait.
Je l'ai bien prononcé.
Oui, super. Très bien.
La star de TikTok qui est avec nous ce matin sur RMC. Si je résume, vous êtes pour la grève des éboueurs, mais contre la grève dans les transports. Et vous allez nous dire ça dans un instant, tout de suite.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Quentin Vinet.
Non. Allez, bon réveil à tous, bonjour à tous, il est 6h11 sur RMC, sur RMC Story.
L'invité de Charles Matin.
Notre invité ce matin, c'est vous, Ludovic Franchessé. J'ai bien prononcé, c'est
parfait. Bon,
c'est bien ça. Allez, bonjour à vous. Vous êtes éboueur. Vous êtes éboueur à la ville de Paris. On vous connaît pour ça. On vous connaît surtout parce que vous êtes l'éboueur star, je peux dire ça comme ça, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous vous êtes fait connaître très clairement et que vous partagez finalement votre quotidien au boulot.
Mais ce matin, si on vous invite, c'est parce qu'à Paris, dans la moitié des arrondissements, les ordures débordent de partout. Une partie des agents sont en grève, mobilisés contre la réforme des retraites.
Alors,
qu'est-ce que concrètement, est-ce que vous, vous faites grève, est-ce que vous êtes pour ce mouvement de la mobilisation contre les retraites?
Je voudrais juste préciser que là, je parle en mon nom,
oui.
Je ne parle pas au nom...
Vous n'êtes pas syndiqué?
Voilà, je ne suis pas syndiqué, je ne suis pas dans la politique du tout, je parle juste en mon nom, qui s'appelle Ludovic Franceschet, je suis un employé de la ville de Paris, terminé, mais je ne parle pas au nom des syndicats, et je ne parle pas au nom des éboueurs, attention, qu'on soit bien clair là-dessus, et bon, moi, oui...
Vous êtes gréviste?
Je suis gréviste en dents de scie.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que un jour de grève, ça nous coûte 75 euros. Mmh. Donc, je peux pas me permettre de perdre 500, 600 euros. C'est pas possible, vraiment. Alors, il y a des caisses de grève, donc on verra par la suite. Hein. Mmh. Mais je donne ce que je peux, justement, pour que les choses elles puissent changer. Voilà.
Vous avez fait grève.
Il faut que ça change.
Vous avez fait grève combien de jours? Expliquez-nous.
Alors jusqu'à maintenant, j'ai fait grève 2 jours.
2 jours. Et vous avez arrêté?
J'ai arrêté et je vais reprendre.
Vous comptez reprendre?
Oui.
Dans les prochains jours. Donc ça va encore être 75 euros de perdu.
Oui.
Est-ce que ça peut durer longtemps, ça?
J'espère que ça ne va pas durer longtemps, parce que j'espère que le gouvernement va faire quelque chose.
Oui.
Vraiment. Parce qu'il le faut. Et il est vrai que chez nous, quand on fait grève, on ne ramasse pas les déchets, on ne collecte pas les poubelles. Et là, on s'en rend compte, dans certains arrondissements...
La moitié à peu près de la capitale.
Voilà, c'est très critique. Ça ramène les rats. Hein. Mmh. D'accord. Donc, le gouvernement continue à faire les sourds, les poubelles vont se cumuler.
L'Élysée, Emmanuel Macron ne veut pas recevoir les syndicats, l'intersyndicale qui a écrit au président de la République. On n'a pas l'impression que ça va bouger dans l'immédiat. Il y a le texte qui est au Sénat, qui va arriver en commission mixte paritaire la semaine prochaine, sénateurs et députés qui vont se réunir et se remettre autour de la table. Bon, franchement, on n'a pas l'impression que ça bouge. Vous pouvez tenir combien, les éboueurs, vous, personnellement?
On tiendra le temps qu'il faudra. Moi, je suis même prêt à perdre de l'argent, même si c'est compliqué, vraiment. Parce qu'il faut que les choses, elles changent. Alors, après, moi, je me ferai aider, mais il faut vraiment que les choses, elles changent. J'insiste là-dessus. Hein. Là, on a bloqué les TIRU. Les TIRU, c'est les incinérateurs. D'ailleurs, je vais y aller.
Il y en a 3 en région parisienne qui sont bloqués. Il y a celui d'Ivry, qui est un des plus grands d'Europe. C'est le plus grand d'Europe qui est bloqué. Vous comprenez l'exaspération d'un des parisiens? Et d'ailleurs, des habitants des autres villes qui sont concernés par la grève du ramassage des poubelles.
Je peux comprendre, mais il faut comprendre aussi que là, ce qui se passe, c'est qu'on va travailler 2 ans de plus. Là, c'est pas possible. Pas possible. Moi, je me vois pas travailler 2 ans de plus. C'est compliqué, notre métier. Il est pénible. On respire des choses toxiques. On a des ports de charge lourdes. Enfin, ça va être très compliqué. Je me vois pas du tout.
Très compliqué.
Ouais, exactement. Et moi, en fait, moi, j'adore mon métier, bien évidemment. Mais à un moment donné, mon physique va pas suivre. Les articulations chez nous, elles prennent un coup, hein.
Et lorsque vous dites, et vous avez pris position récemment à ce sujet, vous êtes évidemment pour, puisque vous en faites partie, pour la grève des éboueurs. Par contre, vous êtes contre la grève des cheminots, contre la grève dans les transports.
Je suis pas contre la grève des cheminots, mais je pense qu'ils pourraient faire les choses autrement.
Comment alors?
Parce que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent l'humain. En fait, ils bloquent les gens pour aller travailler. C'est très compliqué. Alors moi, comme je disais, je pense qu'ils pourraient faire de la gratuité. C'est interdit. Certes, mais on s'en fout de l'interdit dans ces cas-là. On y va, on fonce, donner la gratuité à tout le monde. Et là, ça sera un vrai impact pour économique. Donc du coup, ils vont réagir à un moment donné. Hein. On appelait ça la grève des contrôleurs, je crois, ou un truc comme ça.
Oui, celle qui avait touché la SNCF au moment des fêtes de Noël. Contrôleur et un train qui partait pas. C'était ça, en gros, le principe de la grève.
Pareil pour les énergies. Distribuer l'énergie gratuitement.
Oui, vous êtes pour finalement la gratuité, donc on lève les barrières de péage, on lève les portiques au métro, c'est ça?
Exactement, l'électricité quand on touche au portefeuille. Gratuite.
Et ça, vous pensez que c'est ça qui va permettre finalement
de faire changement? Ah oui, en touche au portefeuille,
bien évidemment. Parce que là, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge, malgré finalement des blocages, etc., des choses comme ça. On a vu ça ces derniers jours, on a vu ça hier encore à Marseille, le blocage de la gare Saint-Charles, on a vu ça en région parisienne, tentative de coupure de courant, par exemple, au Stade de France. Mais bon, finalement, le gouvernement, pour le moment, ne recule pas. Est-ce que finalement, ce sont des opérations gratuites qui pourraient faire bouger les choses? C'est ce que vous dites.
Oui, exactement. Et moi, je pense que ça, s'il ne bouge pas, ça va se durcir. C'est ce que je pense. Alors, attention, je parle en mon nom. D'accord, on est bien d'accord avec ça. Je n'ai pas d'infos, mais on ne lâchera pas.
On a bien compris que vous ne lâcherez pas. Et merci beaucoup d'être venu le dire ce matin sur RMC. Ludovic Franceschet, ça nous a fait plaisir de vous voir sur RMC et RMC Story. Éboueur donc à Paris, éboueur gréviste et éboueur également star de TikTok qui était avec nous donc ce matin sur RMC. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. À 6h16 sur RMC, on ne bouge pas. Deux rendez-vous qui arrivent. Il y a Antoine Martin qui vient de s'installer en studio. Antoine qui va nous parler de Corinne Diacre. Il y a Manu Le de Chypre aussi qui est là, qui salue les Warstars de TikTok, et Manu qui va se pencher et sur ce qui nous reste finalement à cette époque du mois sur notre compte en banque. Vous ne bougez pas, bon réveil à tous.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Anaïs Castagna, Quentin Vinet.
Et il est 6h20 sur RMC. RMC Story, c'est l'heure de l'économie.
Le Chypre du jour.
Le chiffre du jour avec Manu ce matin. Salut à toi Manu, notre indicateur Free Frog du mois. Le 10 du mois, pardon, c'est,
eh oui.
Il nous reste 71 euros, c'est ça?
Eh ben oui, c'est le 10. Alors effectivement, on fait notre petit point mensuel. Et le 10 février, il restait en moyenne 71 euros. Donc sur le compte en banque d'un échantillon représentatif de 10 000 Français qui gagnent moins de 2 000 euros par mois et qui sont chaque mois à découvert. C'est un peu le profil de la population, vous savez, qui est finalement bénéficiaire un peu de toutes les aides, oui. Les chèques, etc. Donc à bénéficier le gouvernement. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de le scruter. Échantillon donc bâti par la société FinFrog avec qui on a cet indicateur. Alors le 10 du mois, pourquoi il faut le rappeler? Parce que tous les revenus ont été versés, les salaires, les APL, les allocations, les bourses, les retraites, etc. Et que plus des deux tiers des dépenses réalisées par prélèvement automatique interviennent avant ce 10 du mois. Et donc là, eh bien la situation est un peu plus favorable que l'an dernier, puisqu'en février 2022, c'était 54 euros. Donc à peu près un peu moins de 20 euros de plus cette année. Et c'est aussi, il faut le souligner, meilleur que ce qui restait le 10 janvier 2023.
Ouais, on pouvait s'attendre à pire finalement.
Oui, on est à 71.
Oui, exactement. Là, on est à 71. On pouvait s'attendre à pire parce que d'habitude, le meilleur mois de l'année, c'est le mois de janvier. Hein, c'est le mois qui suit notamment le versement
du troisième
mois, ouais, de la prime de Noël, etc. Et donc l'année dernière, d'ailleurs, le mois de février était beaucoup moins bon que le mois de janvier. Et cette année, c'est le contraire. Cette année, février est meilleur. Alors, on pourrait se dire c'est une bonne nouvelle. En fait, on s'aperçoit que c'est plutôt un trompe-l'œil, parce que la réalité, c'est que les ménages sont revenus à un niveau de dépense sur leur carte bancaire, notamment qui était celui de l'automne, alors que les prix ont quand même assez nettement augmenté. Ça veut dire quoi? Quand vous maintenez votre niveau de dépense et que finalement l'inflation augmente, bah ça veut dire que vous vous serrez la ceinture. Et clairement, les ménages français aujourd'hui, eh bien, c'est ce qu'ils font. Ils attendent, ils redoutent des jours plus difficiles. Donc, on devrait le voir sur les chiffres de consommation.
71 euros, donc le chiffre du jour avec toi, Manu. Ce matin, c'était important de le donner. Tu restes là, Manu. Tout de suite, c'est l'heure de la Story Sport.
La Story Sport.
Avec Antoine Martin. Antoine, pas de suspense, hein, hier à la Fédération Française de Football, on s'y attendait, ça y est, c'est fait. Corinne Diacre, merci, au revoir.
Ouais, fini les clashs, fini les non-dits, fini le règne de terreur que d'anciennes joueuses décrivent. L'ex-sélectionneuse s'en va avec des convictions qu'elle n'a jamais reniées.
Ça, je vous le cache pas, sur le terrain, sur le carré vert, c'est rigueur, exigence, travail. Voilà, ça, je n'en démords pas.
À la tête de l'équipe de France féminine depuis 2017, la Nordiste de 48 ans présente quand même un très bon bilan, le meilleur pourcentage de victoires de l'histoire des Bleus avec 79%, mais aucun titre à la clé.
Et pourtant, elle disposait d'une belle génération. Hein.
Certainement la plus talentueuse qu'il soit, mais tout a mal débuté en 2017 lors de son intronisation. Elle décide de retirer le brassard de capitaine à Wendy Renard, tôlière respectée. C'est une première rupture entre elle et une partie du groupe.
Et puis arrive la Coupe du Monde tant attendue en France en 2019.
C'était le grand objectif, remporter un premier titre international à la maison. L'organisation dans l'Hexagone est une réussite, mais l'aventure s'arrête en quart de finale. Une immense déception, puis les langues se délient. La néo-capitaine Amandine Henry dévoile la véritable ambiance.
Et humainement, je voyais des filles pleurer dans leur chambre. Moi, personnellement, je pleurais parfois dans ma chambre parce que j'avais envie de vivre cette Coupe du Monde. Et au final, non, ça a été un chaos total, en fait.
Et à l'issue de ce Mondial 2019, une première internationale se met en retrait, la gardienne Sarah Boidy.
Je ne me vois pas gagner quelque chose avec cette sélectionneuse et beaucoup de joueuses le pensent aussi, mais ne le disent pas. Je pourrais mettre mes deux mains à couper. L'équipe de France ne gagnera pas l'Euro si ça reste encore une gardienne.
Et celles qui osent parler ne sont plus sélectionnées. La meilleure buteuse de l'histoire des Bleus, Eugénie Le Sommer, Gaëtan Tiné, une historique, et évidemment la capitaine Amandine Henry ne sont pas sélectionnées pour l'Euro 2022 où les Bleus sont éliminés en demi-finale.
C'est aussi ce qu'on retiendra du mandat de Corinne Diacre à la tête de l'équipe de France féminine de foot. C'est vous parler, finalement, vous sortez de l'équipe. L'énième fronde de ses cadres, elle a été fatale finalement pour Corinne Diacre.
Initiée par celle qui a récupéré le brassard de capitaine entre-temps le 24 février, Wendy Renard annonce se mettre en retrait de la sélection, dénonçant les méthode de management de Corinne Diacre.
On m'a toujours dit dans la vie le plus gêné s'en va, et aujourd'hui je ne peux plus, c'est tout, c'est personnel. Moi j'arrive pas à faire semblant, en fait. J'ai pris cette décision qui fait du mal, mais je pense qu'il aidera à prendre des bonnes décisions pour qu'on puisse mettre encore une fois ce maillot au niveau où il mérite d'être.
C'est la voix de trop, accompagnée de plusieurs cadres du vestiaire. La situation du président de la 3F, Noël Le Graët, facilite la fin anticipée du mandat de Corinne Diacre. aux joueuses maintenant d'assumer sur le terrain. La prochaine Coupe du Monde débute dans 135 jours en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et le futur ou la future sélectionneur n'est pas encore désigné.
Ça donne une situation quand même ultra cocasse quand même pour l'équipe de France féminine. On est à 4 mois, hein, c'est ça, de la Coupe du Monde de foot. Ça va se passer en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et donc on se retrouve avec finalement une équipe de France qui n'a plus de sélectionneuse. Si on met en parallèle, on imagine ça avec l'équipe de France de foot chez les messieurs. C'est comme si Didier Deschamps avait été remercié à l'été, juste avant la Coupe du Monde au Qatar. C'est presque inimaginable, effectivement. Merci beaucoup Antoine Martin, c'était la Story Sport comme tous les matins sur RMC et sur RMC Story, canal 23 de la TNT, avec comme tous les jours, vous la connaissez et vous la reconnaissez même si vous regardez la télé, c'est Apolline qui nous rejoint. Salut Apolline.
Est-ce que vous pouvez rajouter l'image au son avec RMC Story? Et en fait, vous voyez d'ailleurs que ce n'est pas Charles, c'est Quentin. Salut Quentin.
Salut Apo.
C'est le bonheur de te voir dans ce
ça me fait plaisir aussi, dans les pantoufles de Charles.
Exactement.
Elles sont un peu grandes pour moi.
Elles sont confortables. Il manque le catogon. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver avec un débat ce matin. Les ZFE, le moteur thermique, on nous avait dit qu'il fallait installer des zones à faible émission dans les villes. On nous avait dit qu'en 2035, il n'y aurait plus de moteur thermique. Et bien voilà que l'Allemagne revient dessus. Plusieurs villes suppriment les ZFE, parfois parce qu'elles ont justement très bien réussi et que donc ils n'en ont plus besoin. Mais par contre, sur la fin du moteur thermique, qu'ils renoncent, ils estiment que 2035 c'est trop tôt, ils n'ont pas signé la décision européenne. Est-ce que la France devrait faire de même? Est-ce que vous estimez qu'il faut repousser les échéances? Je vous attends au 32-16, on va en débattre tout au long de cette matinale. Et puis une actualité à suivre, RMC est en direct depuis une assemblée générale à la raffinerie de l'Avera, c'est près de Martigues. Est-ce que le mouvement continue? Réponse avec notre envoyé spécial Nicolas Repère, qui est donc avec ceux qui vont débattre de la poursuite ou non de la grève. Et puis l'invité du face-à-face tout à l'heure, ce sera Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, celui qui voulait mettre l'économie de la France à genoux. Est-ce que vraiment c'est le cas ou est-ce que le mouvement s'essouffle? Pour l'heure, il est 6h26 et dans un instant, ce sera le journal et la météo. À tout de suite.